Beaucoup souhaitent que je dirige le prochain gouvernement et que je forme la majorité. C'est un résultat grandiose.
C'est pourquoi nous allons tout faire pour former un gouvernement dirigé par la CDU.
Voilà, mes excuses aux germanistes puristes qui auraient souhaité entendre les voix allemandes successivement d'Olaf Scholz, le leader du SPD, puis d'Armin Laschet, le patron de la CDU, mais il y a peu de germanistes en France, donc on traduit systématiquement. Voilà, les deux leaders au coude à coude, avec une légère avance quand même dans les sondages à 1,6% de voix supplémentaires pour le SPD à l'issue de ces législatives allemandes. C'était 60 millions d'électeurs allemands qui étaient appelés aux urnes hier. On va tenter de prendre le temps ce matin, nous allons prendre le temps d'étudier ces résultats. Qu'est-ce qu'ils disent de l'Allemagne d'aujourd'hui? Quelles conséquences également de ce scrutin pour la France et l'Europe? Et je suis ravi d'accueillir dans ce studio Patrick Martin-Genier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions européennes, professeur à Sciences Po. C'est avec vous qu'on va tenter de prendre un peu de hauteur sur ces élections allemandes. Et Hélène Kohl est avec nous ce matin. Elle nous accompagne depuis 16h30. Bonjour Hélène.
Bonjour.
La correspondante d'Europe 1 à Berlin. Alors d'abord, petite question de terrain, Hélène, puisque vous êtes à Berlin. Berlin n'est évidemment pas toute l'Allemagne, mais peut-être d'abord sur l'ambiance de ce scrutin. J'ai donné tout à l'heure le chiffre de la participation qui nous surprend, nous Français qui sommes habitués maintenant à des taux de participation assez faibles, 78%. Avez-vous ressenti un enthousiasme des Allemands à travers ce scrutin?
Oui, clairement. En tout cas, en plus, on l'a vraiment ressenti à Berlin parce que Berlin votait aussi pour le renouvellement de son parlement régional. Donc, il y avait énormément de monde dans les bureaux de vote. Alors, on avait pourtant annoncé une participation des électeurs massive via le vote par correspondance. Vous avez cette possibilité de voter à l'avance pour ne pas se déplacer dans le bureau de vote le jour du scrutin. On avait dit à peu près la moitié des électeurs, 38-40% à Berlin voteraient de cette façon-là. Et pourtant, on a attendu une heure, deux heures parfois devant les bureaux de vote parce que les bureaux de vote n'avaient pas forcément prévu un tel afflux d'électeurs et d'électrices au dernier moment. Il y avait clairement quelque chose dans l'air, un sentiment un petit peu historique. On n'a jamais connu ça. Un chancelier en exercice, une chancelière en l'occurrence, qui ne se représente pas, qui quitte le pouvoir avec une popularité historique, record, et qui décide de ne pas se représenter. Donc le jeu était entièrement rebattu. Mmh. Et c'était inédit. Et donc il y avait quand même, on a parlé beaucoup d'une campagne molle, un peu lassante, etc.
Mais en fait, vous voulez dire, Hélène,
ce suspense était incroyable.
Oui, je vous interromps, mais vous voulez dire que les chanceliers, depuis l'après-guerre en Allemagne, sont toujours partis suite à une défaite. Ils souhaitait pouvoir rester au pouvoir. Hélène, Angela Merkel se distingue des autres par sa volonté, son annonce qu'elle partirait quoi qu'il arrive.
Oui, les chanceliers ont toujours soit perdu les élections, Helmut Kohl il y a 16 ans par exemple, Gerhard Schröder, Helmut Kohl bien avant, Gerhard Schröder il y a 16 ans, ou alors ils ont été démis suite à des changements de coalition. Mmh. Et c'était le cas par exemple de Helmut Schmidt.
Ah oui, ça c'est intéressant quand même. Patrick Martin-Genier, alors je vous vois depuis tout à l'heure passer en revue les drapeaux du monde entier, puisqu'effectivement c'est l'analogie qui est souvent formulée pour les coalitions en Allemagne, la formation des coalitions, puisque chaque parti, on lui attribue une couleur, la CDU-CSU c'est le noir, le SPD c'est le rouge, les libéraux le jaune, les verts, le vert évidemment, Die Linke sont aussi en rouge, et on se demande à quoi ressemblera cette future coalition. Alors Hélène Kohl nous disait, pas plus tard que vendredi, à rebours complet de tous les pronostics qui nous disent ça va prendre des mois, des semaines, la formation de cette coalition, très incertaine, Hélène pense au contraire que ça va aller plutôt vite. Est-ce que vous vous avanceriez sur un pronostic sur le temps de formation de cette coalition?
Alors, tout dépend ce qu'on entend par plutôt vite. C'est le souhait, effectivement.
Il y a 4 ans, ça a pris 17 semaines, 5 mois.
Voilà. Et hier, lorsqu'on entendait Olaf Scholz, dirigeant du SPD, qui a de bonnes chances de devenir chancelier, il disait « Si nous pouvons former une coalition avant Noël, c'est bien l'échéance. Pourquoi ? Parce qu'il faut relier avec ce qui se passe en France. Le 1er janvier 2022, la France prend la présidence de l'Union Européenne.
Puis donc, l'élection présidentielle en France.
Il y a l'élection présidentielle, donc il faut absolument que ce gouvernement soit opérationnel au plus tard à la fin de l'année. Mais quand même, Noël, c'est loin. Mais c'est un temps normal, ordinaire pour l'Allemagne. Il va falloir entrer dans des négociations, car ce n'est pas deux partis, sauf si on reconduisait et encore donc la grande coalition, dont les Allemands ne veulent plus, en fait, en réalité. Trois partis, ça veut dire que dès ce matin...
La grande coalition, je précise, ce serait cette idée que CDU et CSU arrivant l'un et l'autre en tête, pesant à peu près la même force politique...
Oui.
Elle serait incitée par cette volonté du parlementarisme allemand, ce souhait des Allemands que ce soit le plus représentatif possible, que les deux premiers travaillent ensemble. Hein.
Oui, mais ce n'est pas le souhait des Allemands, franchement, parce que la CDU, CSU, qui est le parti de la chancelière, avec sa sœur bavaroise, eh bien, subissent une défaite historique, historique. La première défaite de la démocratie très chrétienne depuis 1949, date de création de la République fédérale d'Allemagne. Et donc, lorsqu'on subit une telle défaite, politiquement, ça va être extrêmement difficile de rester au gouvernement, alors que son dirigeant, Armin Laschet, qui a accumulé les gaffes, comme vous savez, continue à dire « je veux être le chancelier de la République fédérale d'Allemagne ».
Alors d'ailleurs, Hélène Kohl, je me tourne vers vous, parce qu'il y a cette situation un peu bizarre pour un Français. On voit ce matin les deux leaders, Olaf Scholz du SPD et Armin Laschet de la CDU, dire, revendiquer le pouvoir de mener ces négociations de formation d'une coalition. Comment se fait-il que le deuxième arrivé à une élection puisse prétendre diriger le prochain gouvernement ?
C'est le texte de la Constitution allemande. Le chancelier, c'est pas celui qui gagne les élections, c'est celui qui est capable de bâtir une majorité stable. Et donc là, on est un petit peu dans une situation de contre-la-montre. C'est pour ça que je pense que ça va aller relativement vite. Hein. Vous avez raison de le signaler, relatif en Allemagne, hein, ça peut quand même durer des semaines. C'est-à-dire que là, on sait que les libéraux et les verts, ils l'ont annoncé hier, c'est vraiment très très nouveau, ils ont l'intention d'abord de discuter ensemble. Donc ils vont arriver ensemble assez fort finalement, puisqu'ils vont à eux deux, ils vont peser autant que soit le SPD, soit la CDU-CSU. Et donc ils vont arriver ensemble pour négocier. Et ensuite on verra bien lequel des deux, de Scholz ou de Laschet, leur fait la meilleure proposition. Et là évidemment, Laschet et Scholz ont intérêt à agir vite et à arriver avec des propositions alléchantes pour ces deux partenaires.
Oui.
C'est intéressant de voir que les deux parties de la grande coalition, de la fameuse grosse coalition, de la GroKo, à eux deux n'auraient que 402 sièges. Ce n'est pas la majorité qui serait la plus puissante, la plus large au Bundestag.
Alors,
une coalition à trois, donc soit ce qu'on appelle feu tricolore, donc libéraux verts dirigés par le SPD, soit la coalition dite de la Jamaïque, les couleurs de la Jamaïque, donc verts et libéraux avec les conservateurs qui sont noirs. Ce sont les deux coalitions les plus larges, 416 et 406 sièges, a priori, ce matin. Il faut noter que pour les Allemands, c'est intéressant et important d'aller vite. Certes, il y a la présidence française au niveau de l'Union européenne. Cela dit, on ne l'a pas évoqué hier soir. La date qui est évoquée pour les Allemands, c'est aussi le 1er janvier, parce qu'eux, ils prennent la présidence du G7. Donc c'est vraiment très important à avoir en tête. Il y a à la fois la présidence française, ou alors ils peuvent se dire, voilà, notre partenaire à Paris a besoin d'avoir un gouvernement stable, mais surtout nous, on va accueillir les partenaires du G7, il nous faut un chancelier.
Et nous, ah oui, on n'a pas en tête, nous, forcément le même calendrier que nos voisins allemands. Alors, on ne va pas s'aventurer dans la constitution des différents attelages possibles. Hélène Kohl vient de nous expliquer à quel point ça s'annonce complexe, avec aussi, pour entrer dans ces coalitions, de potentiels renoncements. Imaginons les libéraux accepter des hausses d'impôts, comme le proposent les socialistes du SPD, ça paraît totalement improbable. Mais pourquoi pas, ça pourrait arriver. On va se pencher, dans la deuxième partie maintenant de notre Zoom Info, sur les conséquences pour la France et pour l'Europe de ce scrutin allemand, du risque de paralysie européenne si les discussions prennent beaucoup de temps. Nous sommes avec Patrick Martin Génier, précisément c'est sa spécialité, ces questions européennes, et Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Tout de suite.